Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouissez-vous, bonne nouvelle, consolée. La liturgie de ce jour, à travers les lectures, nous invite à ne pas nous enfermer dans la tristesse ou le désespoir, mais à préparer nos cœurs à l'avènement du Seigneur dans nos cœurs. Accueillir la joie et consoler, c'est le premier mot du livre d'Isaïe que nous avons entendu. Nous sommes invités à nous réjouir et à consoler. Et en ce moment, règne dans notre monde extérieur et intérieur la méfiance, le découragement, la dépression. Nous baignons dans un pessimisme ambiant, comme du temps d'Ésaïe aussi. Le livre d'Ésaïe résonne alors comme un appel, un cri qui nous invite à introduire la confiance dans la possibilité d'un bonheur véritable, d'une espérance possible, qui ne s'appuie pas seulement sur les qualités, sur le savoir, mais sur la parole de Dieu. En préparant cette homélie, je lisais le constat de Bertrand Vergely à propos de son petit livre magnifique sur la miséricorde. Il disait ceci: dans un autre monde marqué par la concurrence économique, des rapports de force politique et la lutte pour le pouvoir médiatique, il n'est pas conseillé d'avoir la miséricorde. Le monde semblerait donc dur. Je dirais donc que la miséricorde va de pair avec la joie. Rappelons-nous la parole du Père miséricordieux au fils aîné qui refusait de faire la fête. Il fallait se réjouir, car mon fils que voici était mort et maintenant il est vivant. Le fils aîné était enfermé dans le devoir, dans la morale et n'était plus relié à la vie. Le Père Alexandre Schmemann disait que le commencement de la fausse religion et l'incapacité de se réjouir. Spinoza, qui est un des premiers juifs laïcs du XVIe siècle, un grand philosophe, qui est très sympathique apparemment, faisait remarquer que la joie augmente notre puissance d'agir et la tristesse diminue notre être, notre puissance d'agir. Le sentiment de la faute, le moralisme ne libère pas, fait encore remarquer Schmemann. La joie du Seigneur libère. Et c'est en étant dans la joie, en étant relié à la source de notre être et en étant dans l'axe, dans la profondeur, connecté à l'Esprit Saint, que nous sortons de la peur, de l'angoisse qui nous emprisonne, qui nous enferme. L'absence de joie, je dirais, désigne aussi l'enfer. Le signe de la joie se situe dans la capacité d'apporter la vie, d'avoir la force d'aller là où ça va très mal, et qui permet de sortir le monde de la malédiction. Pensons à Etielissum, qui, dans les pires moments du peuple juif, et dans les pires moments de sa vie, disait encore que la vie était belle. Et ce n'était pas la souffrance qui était belle, mais l'expérience qu'elle avait de la vie profonde en elle. Et donc, c'est cela même le cri, l'appel qui débute dans le livre d'Isaïe. « Consolez mon peuple, parler au cœur de Jérusalem que sa faute est payée, accueillir la joie pour sortir le monde de la malédiction. Le mal ontologique n'existe pas. À l'origine, dans le principe, il y a la bonté de Dieu. La consolation n'est pas fuite du monde, mais la plongée du monde dans l'amour divin, afin que la gloire du Seigneur se révèle en toute chair. Jean s'efface dans son humilité et se fait la voix qui appelle à faire advenir Dieu dans notre cœur. C'est le travail auquel il nous invite lorsqu'il dit « redresser le chemin du Seigneur » en reprenant les paroles du prophète Isaïe. L'acte du baptême par Jean balise le chemin vers le baptême de l'Esprit, dans l'Esprit. Jean le Baptiste appelle à un bouleversement, à un retournement, une métanoïa, à une existence nouvelle, renoncer à son ego. Et dans Luc ou dans Matthieu, à la demande que devons-nous faire, il dit ceci: renoncer à la cupidité, renoncer à l'égoïsme pour écouter les appels des pauvres et aller à leur secours. Être honnête en affaires, ne pas être corrompu, ne faire violence à personne, ne pas profiter de son pouvoir, mais les utiliser au service des faibles. À ne pas nous crisper sur notre ego. Ces appels balise le chemin d'une existence nouvelle. Mais plus fondamentalement, nous sommes invités à entrer dans une autre dimension, dans une dimension divine de l'existence. Isaïe nous invite à nous recentrer sur la parole de Dieu, à prendre conscience que la parole divine demeure éternellement, et c'est en étant habité par cette parole que nous devenons nous-mêmes parole de Dieu et bonne nouvelle pour le monde. Présence. Jean ajoute aussi, « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, lui qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Ce milieu de vous n'est pas un endroit géographique, mais c'est en nous que se trouve la source de la joie, l'Esprit de Dieu. Si vous vous laissez baptiser par le Christ dans l'Esprit, vous pouvez faire l'expérience de l'ineffable. Vous pouvez passer dans la terre promise, dans la plénitude de l'Esprit. Dans l'évangile de Jean, le lieu de Béthanie rappelle la frontière du passage du peuple d'Israël vers la terre promise. Donc, nous sommes invités à entrer dans cette plénitude de l'Esprit, à vivre de cette plénitude, cette semence divine qui est déposée en nous, que nous sommes invités à croître, à faire croître pour accomplir notre destinée divine. Jean désigne celui qui est plus fort que lui et qui baptise dans l'Esprit. Noël, c'est l'annonce du royaume des cieux qui advient en nos cœurs. Et vous vous rappelez, vous vous souvenez certainement de cette parole d'un père de l'Église, et la plupart des pères de l'Église rappellent ceci, « Chrétien, prends conscience de ta dignité puisque tu participes maintenant de la nature divine. » Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. Alors, mes amis, comme le Maître l'a dit dans un évangile, la parabole des talents, serviteurs que nous sommes, entrons dans la joie du Seigneur, de notre Maître. Amen.
Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié.